Ce matin, j'aimerais que nous ne soyons pas des camps, mais que nous soyons des demeurés. Pas des camps, mais des demeurés. Alors vous allez comprendre après ce que je veux dire, parce que là c'est un peu bizarre quand je dis ça comme ça. Quand je serai marié, je serai heureux. Quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Quand j'aurai enfin acheté la grande maison que je convoite depuis des années, je serai heureux. Quand mes enfants seront plus grands, je serai heureux. Quand j'aurai gravi quelques marches sur l'échelle professionnelle, je serai heureux. Quand je serai heureux. Quand j'aurai ceci ou cela, je serai heureux. On est très souvent agrippé à nos quand pour le bonheur. Et on est tellement agrippé à ça que cela alimente en nous la frustration. On oublie même ce qu'on a. On est tellement béni en Jésus-Christ. On est tellement béni, on a tellement reçu. Mais quand je... Quand j'aurai plus cette mauvaise pensée qui me vient constamment à l'esprit, je serai heureux. J'aimerais ce matin répondre à une question. Comment vivre dans la joie en toutes circonstances? Facile? Non. Comment vivre dans la joie en toutes circonstances? Et pour cela, nous allons lire Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Et on va voir ce que ce texte nous dit, ce que Jésus nous dit. Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Jésus est là avec ses disciples. Il est proche de sa mort et voici ce qu'il dit. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. » Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au sel. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent. Puis on les ramasse, on les met au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète, parfaite. Seigneur, aide-nous à comprendre ce texte. Comment vivre dans la joie en toutes circonstances? Voici comment Jésus répond à ce texte. Demeurez en Christ. On doit plus être des camps, mais des demeurés. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons demeurer en Christ. Et quand je dis des demeurés, c'est plutôt dans le sens qu'il y a plein de demeurés. Demeurer en Christ, demeurer dans son amour, demeurer dans sa parole. Et on pourrait même dire demeurer dans la prière. Et plus loin dans le texte, on n'a pas lu la suite, on pourrait dire aussi demeurer dans l'amour les uns pour les autres, comme il nous a aimés. Demeurer, demeurer, demeurer. On pourrait donc souligner cela, demeurer en Christ. Donc, habituellement, j'arrive toujours avec plein de points, mais aujourd'hui, c'est juste demeurer en Christ. Si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est proche de sa mort. Ce n'est certainement pas le moment pour parler de joie, mais pourtant, Jésus parle de joie. La joie qui est la mienne. Comment tu fais, Jésus, pour être dans la joie alors que tu vas mourir? Il fait mention plus loin et dans un texte de la parole de Dieu qu'il regardait au-delà de la croix. La joie qui lui était réservée. Jésus est proche de sa mort. Il s'adresse à ses disciples et il donne l'image de la vigne. Et il donne quelque chose de tellement simple, tellement logique. Comment on peut faire plus simple? Un plant de vigne. Si un sarment veut porter du fruit, il faut qu'il soit attaché au cep. Si un pommier veut porter des pommes, ben il va falloir que les branches restent attachées au tronc. Nous sommes là face à quelque chose de très logique, très, très simple à comprendre, pour une fois que Jésus est simple. Jésus est le cep, c'est-à-dire qu'il est la source de la vie spirituelle, de la vitalité, de la croissance, de la productivité. Avant, dans l'Ancien Testament, quand on parlait du cep, on parlait du peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël que Dieu utilisait pour être une bénédiction pour les nations. Mais nous savons combien le peuple d'Israël a échoué. Constamment, il revenait à Dieu, puis il péchait, puis il revenait à Dieu. Puis le péché n'était pas le petit péché, il y avait l'idolâtrie. Imaginez faire un veau d'or et adorer un veau d'or devant le grand Dieu qui nous a sortis du pays d'Égypte. C'est terrible. Il serait bien un jour qu'on parle un peu de l'idolâtrie. Hein. Nous verrons que nous ne sommes pas si... Nous sommes très, très vite idolâtres dans notre vie. Et ça, ce serait un autre message. Jésus enseigne que pour porter du fruit, en fait, il faut être constamment attaché à lui. S'il parlait du cep et qu'il dit qu'il est le vrai cep, le peuple d'Israël a échoué. Mais Jésus, maintenant, c'est lui le vrai cep. En lui va couler tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui est la source de bénédiction pour toutes les nations. Abraham, nous connaissons hein, ce texte où on parle d'Abraham, qui était lui, celui que Dieu bénissait pour être une bénédiction pour toutes les nations. Mais quelqu'un allait venir, c'est Jésus-Christ qui vient pour bénir, être une bénédiction pour toutes les nations. C'est lui qu'on attendait. Jésus-Christ, le vrai. Cep. Parlons de ce mot demeurer. Si l'image porter du fruit, quand on dit de porter du fruit, c'est d'être constamment attaché à lui, c'est en fait de rester à l'endroit où on se trouve. Le verbe demeurer, c'est séjourner, s'attarder, ne pas partir, continuer à être là où nous sommes. Garder continuellement quelque chose. On pourrait dire même, pour quand on déménage par exemple et qu'on habite ailleurs, ben c'est poser nos valises. C'est maintenant ici, c'est ma maison. Demeurer, c'est construire toute ma vie là. Ce n'est pas juste je demeure un instant puis ensuite je m'en vais. Demeurer. En fait, par rapport à l'image de cette vigne, la vie chrétienne, n'est rien du tout si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre, porter du fruit si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ. On pourrait dire même, la vie chrétienne est un miracle. Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'étais insolent comme pas possible envers ma mère, comme pas possible envers mes professeurs, je ne travaillais pas à l'école. Ma vie, c'était la cata, dans tous les sens du terme. À me regarder, on avait envie de me corriger. Tellement je regardais les gens avec insolence. T'es qui, toi ? Moi, je suis Manu, quoi. C'est difficile de me voir comme ça, hein ? Mais j'étais comme ça. Le jour où j'ai commencé à être ce sarment qui commence à être attaché au simple, ma vie a totalement changé. Vous faites partie de ces gens-là ? Vous faites partie de ces gens-là ? Être attaché au cèpe, ça transforme notre vie. Quand j'ai commencé à dire oui à l'amour de Dieu, c'était incroyable le changement que Dieu a produit en moi. La vie chrétienne est un miracle. Je suis un miracle. Est-ce que vous êtes des miracles de ce que Dieu fait dans votre vie ? C'est ce que le texte est en train de nous dire. Le cèpe, Jésus-Christ, quand je suis attaché au vrai cèpe, c'est pas sans lutte, je ne suis pas en train de dire ça va tout seul, je suis attaché à Jésus et puis d'un coup je porte du fruit. Ça ne va pas tout seul. Il y a une lutte. Je dois rester attaché à ce cèpe. Mais dans la mesure où je reste attaché à ce cèpe, c'est incroyable. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je ne cesse de porter du fruit. Et combien je suis triste de voir dans ma vie que assez souvent j'ai lâché cela. Je n'étais pas toujours attaché à ce cèpe, à Jésus-Christ. Jésus, c'est comme une invitation pour nous. Jésus nous invite à rester constamment attaché au cèpe, à ne plus le lâcher, à vivre une communion, une intimité, une relation avec lui ininterrompue. Il n'y a plus d'arrêt. Je suis avec lui. Ce n'est pas je prie le matin et puis voilà, j'ai prié, Seigneur, maintenant tu restes là dans ma chambre, maintenant je vais vivre ma journée et puis on se retrouve le soir. Ou on est là le dimanche matin, alléluia, Jésus, tu es vivant, tu es Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes tripes. Et puis dans la semaine, je lui adresse même pas la parole, je ne sais même pas qui c'est. Je ne le connais même pas. C'est le Dieu du dimanche, quoi. C'est ma petite religion, vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un a dit ceci, « Demeurer en Jésus-Christ signifie faire de lui la personne la plus importante de ma vie. C'est vivre et rester en lui et le mettre au centre de mon existence. C'est alors que je porterai du fruit, le fruit d'une vie sainte. C'est alors que la joie de Dieu coule en moi. » C'est bien dit. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un attachement solide et profond avec Jésus-Christ. Et Dieu, lui, se présente comme le Père. Enfin, plutôt le Père, Dieu le Père, se présente plutôt comme le vigneron. C'est lui qui est propriétaire de sa vigne. Et je suis particulièrement touché par ce qui est dit du Père. Il est parlé de démonder, il est parlé de tailler. En fait, vous vous en rendez compte ? Dieu est préoccupé sans cesse de ta croissance spirituelle. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a constamment à l'esprit quand nous vivons notre relation avec Dieu, de savoir que Dieu est sans cesse préoccupé par ta croissance, par ma croissance spirituelle. On l'a entendu tout à l'heure par lui. Il nous a dit quelque chose de très profond là. Dieu se sert des difficultés pour nous faire grandir. Ça m'amène à dire ceci. La joie en toutes circonstances ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. Qu'il n'y a pas de moments difficiles, douloureux. Et ce serait totalement faux de dire qu'en tant que chrétien, je dois toujours sourire. Les beaux smileys du dimanche. Mais quand on est dans notre chambre tout seul, on est comment ? Dieu veut qu'on soit vrai. On parle d'une autre joie, là. d'une joie d'appartenir à Jésus-Christ, d'une joie d'être sauvé, d'une joie de voir les enfants de Dieu donner leur vie à Jésus-Christ. Il y a plein de sujets de joie qui font que malgré les difficultés, oui, j'ai ces épreuves, j'ai tout ça, mais je sais que Jésus-Christ est avec moi. Je sais que quand je reste attaché à lui, il me donne la force de traverser les épreuves. C'est ça, la joie. Jésus, on parle de la joie, mais est-ce que Jésus était dans la joie en toutes circonstances? Quand il a pleuré, est-ce qu'il était dans la joie? De quoi on parle ici? Il pleurait, mais certainement, il éprouvait toujours la joie du miracle qu'il allait produire. Je sais que tu m'exauces toujours, c'est ce qu'il dit quand il dit à Lazare de sortir. Vous vous rappelez? Il pleure, mais il dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours, voilà où est la joie. Il pleure et il est dans la joie, c'est bizarre ce truc-là. La joie n'enlève pas les pleurs, la joie n'enlève pas la douleur, mais elle nous aide à traverser les difficultés. Soyez ce que vous êtes quand vous êtes dans les larmes. Pleurez, ne faites pas le chrétien qui sourit. Dieu n'attend pas de vous la joie de façade. Soyez libérés de ce que peut-être ce que vous avez toujours cru. Il faut toujours que je sois dans la joie, il faut toujours que je souris, il faut toujours que je sois bien, il faut toujours que je saute de joie. C'est complètement faux ce message. La joie que Dieu attend de nous s'éprouve dans l'intimité avec lui, c'est de savoir qu'il est avec moi. Et ça n'enlève pas les douleurs. Ça n'enlève pas la souffrance. Et Dieu lui-même, qui est toujours joyeux, est en colère face au péché. Est tellement triste de voir tant de souffrance, tant de guerre et bruit de guerre. Et on pourrait faire toute une liste de tout ce qui attriste le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu est toujours joyeux? Il éprouve en lui une joie tout le temps, oui. Mais ça n'enlève pas sa tristesse. Vous voyez, c'est des choses qui sont comme ensemble. On a l'un, mais il y a l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais poser cette question. Est-ce que nous portons toujours du fruit? Est-ce que nous voyons une croissance dans notre vie? Si Dieu le Père est le vigneron, s'il se soucie constamment de ma croissance et s'il me taille pour que je puisse porter toujours plus de fruits, parce que Dieu, son problème, ce n'est pas qu'on porte du fruit, mais c'est qu'on porte plus de fruits. Est-ce que vous voyez une croissance dans votre vie? Est-ce qu'il y a croissance en sainteté, en sagesse, en amour? Est-ce que tu vois dans ta vie qu'il y a des changements? S'il n'y a pas de croissance dans ta vie, pose-toi des questions. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Parce que le texte est en train de nous dire que Dieu se préoccupe sans cesse de ma croissance spirituelle, en sainteté, en amour. En fait, il veut que je ressemble davantage à Jésus-Christ. Et si une personne ne porte jamais de fruits? Alors là, nous sommes face à un message solennel, un message qui nous fait trembler. J'espère qu'il vous fait trembler de peur face à ce que Jésus est en train de dire. En plus, il donne des détails comme si... Pour moi, face à ce texte, on a tendance à juste voir la vigne. Et dire, oui, c'est une vigne. Et puis Jésus dit, bon, voilà, que... Celui qui ne porte pas de fruits, bon voilà, il est jeté dehors et puis il est brûlé, il est jeté au feu et puis il brûle. Non, il est question ici de l'enfer. Jésus mâche pas ses mots et il le dit deux fois. Si un chrétien, soi-disant chrétien, et se dit chrétien et ne porte jamais de fruits, il n'y a jamais de repentance, il vit tout le temps dans le péché. Oh, bien sûr, il vient à l'église. Oh, bien sûr, il fait peut-être des prières. Mais il est toujours dans le péché. Il ne vit jamais une vie qui glorifie Dieu. Il n'y a pas du tout de relation avec Dieu. Je suis désolé, mais le texte est en train de nous dire que cette personne va en enfer. Il doit y avoir des fruits, un minimum de fruits dans notre vie. Si nous... Et en fait, le texte n'est pas en train de dire que nous allons perdre notre salut. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Le texte est en train de dire, Jésus est en train de dire, le véritable disciple, celui qui m'appartient vraiment, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui demeure dans ma parole. C'est celui qui grandit en sainteté, en amour, en joie, etc. Il n'y a pas quelque chose de pesant dans ce texte. Et bien sûr, il y a des gens qui, soi-disant, se disent chrétiens. Ils disent, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Oui, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons ? Waouh, j'aimerais bien faire tout ça, moi. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce qui est dit dans le texte. Retirez-vous de moi. C'est terrible. Le véritable disciple de Jésus-Christ porte un minimum de fruits. Et si ce matin tu sens que, ah oui, mais moi je suis cette personne qui est, entre guillemets, le petit chrétien du dimanche, et en fait je vis constamment dans le péché, moi je ne vis pas de fruits du tout, je n'ai aucune relation avec Dieu, aucune intimité. Si tu fais partie de cette personne-là, Dieu t'aime, sache-le, Dieu t'aime. Viens à lui. Quand tu commenceras à demander pardon à Dieu pour tes péchés et à placer ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu va t'amener à porter du fruit pour sa gloire. En tout cas, ne reste pas dans l'attente. Tu peux déjà prier à ta place, mais aussi on peut se voir juste à la fin du culte et prendre ce temps ensemble. Mais ne reste pas loin de Dieu. Dieu t'appelle maintenant. Et je suis toujours surpris dans les Écritures, comme je disais au groupe de jeunes hier, il est dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et je me rappelle de ce frère qui était dans une... Enfin, de ce frère, de cette personne qui venait dans un culte et il entendait l'Évangile et c'était très clair qu'il fallait que... Voilà, on donne notre vie à Jésus-Christ. Et cette personne est sortie, au moment où elle est sortie, une voiture l'a tapée. La personne est morte sur le coup. Quand il est dit, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est Dieu est en train de dire en fait que tu ne contrôles pas ta vie, tu n'es pas ta vie, elle peut s'envoler comme une fumée, comme de l'air. C'est rien du tout notre vie. Tu ne contrôles pas ta vie, tu n'es pas maître de ta vie. N'attends pas demain. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut pour toi. C'est quoi l'attachement à Jésus-Christ? J'aimerais juste dire deux points là. L'attachement à Jésus-Christ, en fait, la première chose, c'est que c'est notre position en Christ. Quand nous avons compris l'amour de Dieu, que nous lui demandons pardon pour nos péchés, quand nous plaçons notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que Dieu nous place en Christ. C'est incroyable, c'est génial cela. L'apôtre Paul le disait dans Éphésiens chapitre 1, où il dit mais qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Dieu nous place en Jésus-Christ. Donc nous pourrions dire que demeurer en Christ, c'est être en Christ, tout simplement placé par Dieu le Père. Lui qui nous place en Christ. Parce que nous avons demandé pardon pour nos péchés et placé notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais la deuxième chose, c'est de rester attaché à Jésus-Christ dans notre marche quotidienne. Tout le temps. Tout le temps. En passant du temps dans la prière. En obéissant à la parole de Dieu, en jouissant sans cesse de l'amour de Dieu, demeurez dans mon amour. Et on pourrait ajouter le texte que nous n'avons pas lu, qui était juste après, en demeurant en communion dans la famille de Dieu, en nous aimant les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Je vois que le temps est déjà écoulé et je souhaitais ce matin passer du temps sur demeurer dans la parole. Peut-être ce sera pour une autre fois, mais j'aimerais quand même dire ceci par rapport à demeurer dans la parole. Alors il y a beaucoup de demeurer, et c'est vrai que s'il fallait prendre tout notre temps sur chaque élément, c'est incroyable tout ce qu'il y aurait à dire sur ce texte. Mais j'aimerais juste vous inviter à quelque chose pendant les vacances, ou plutôt avant les vacances, ou si vous n'êtes pas encore en vacances, en tout cas dans cet été. Demeurez dans la parole. S'il y a bien une chose où les chrétiens sont en difficulté, c'est juste de lire la Bible. Des gens sont chrétiens depuis des années, 5, 10 ans, 20 ans, et ils sont toujours en difficulté juste sur une chose basique, lire la Bible dans leur vie quotidienne. Juste la lire. La Bible dit tellement de choses. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu soit en vous dans toute sa richesse. Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ou le psaume 1, qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite de temps en temps. Non, jour et nuit. Demeurer dans la parole, ce n'est pas lire la Bible juste le dimanche. Ce n'est pas ouvrir la Bible juste de temps en temps. Demeurer dans la parole, c'est faire de cette parole la priorité de nos vies. C'est construire toute ma vie sur cette parole. Je vous donne un exemple. En tant que mari, par exemple, pour ceux qui sont mariés, si vous voulez demeurer dans la parole, si c'est votre souci, vous savez ce que vous faites. Vous ne réfléchissez pas juste à « Ah ouais, comment je peux être un bon mari ?» Non, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole pour être un bon mari? Et vous allez chercher dans cette parole pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Et vous allez tomber sur ce fameux texte qui fait très mal, n'est-ce pas? Que les hommes doivent, les maris doivent aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Alors pour les femmes, quand on dit d'être soumise à votre mari, en fait, on pense que ce qui fait plus mal, c'est pour la femme, mais non, c'est pour le mari. Parce que là, le sacrifice, oulala. Nous, on doit être chef dans le sens qu'on doit vous aimer au point de nous sacrifier pour vous. Et vous, vous soumettez à un homme qui se sacrifie pour vous. C'est très logique, le texte. Et moi, en tant que mari, on est là, on veut tellement demeurer dans cette parole et on fait tout pour aligner notre vie à cette parole. Donc, on médite ce texte pour mettre en pratique. Et puis, on prie et on fait tout pour qu'on puisse aimer notre épouse comme Christ à aimer l'Église. Ça, c'est demeurer dans la parole. Et ce sera la même chose pour une épouse, c'est la même chose pour un enfant. Comment je fais pour honorer mes parents? Regarde le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? Pour le travail aussi, comment je fais pour honorer Dieu dans mon travail? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Aïe, mince. Ah ouais. C'est très élevé ce texte-là. Voilà. Je vous invite à demeurer dans cette parole, à la lire chaque jour, à la méditer chaque jour, à prendre du temps dans cette parole. Soyons honnêtes. Est-ce que nous lisons chaque jour cette parole? Est-ce que nous demeurons dans cette parole? Est-ce que cette parole a la priorité dans notre quotidien? Est-ce que c'est la première chose que nous ouvrons quand nous nous levons du lit? Vous savez ce qui arrive maintenant, aujourd'hui, notre génération, la première chose, quand ils se lèvent du lit, ils ouvrent quoi? Le portable. Téléphone. Quel est le mail? Quel est le SMS? Quel est le Facebook? Et puis, la vie de prière, elle va dans les oubliettes. La parole de Dieu, c'est plus elle qui fonde notre vie? Il faut se poser une question. Quel est le fondement de notre vie? Sur quoi nous construisons notre vie? Construisons notre vie sur la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour ce temps ensemble et nous voulons ensemble te demander de nous aider à puiser davantage en toi, en Christ. Si nous pouvons vivre dans l'amour, dans la sainteté, c'est seulement en puisant, en étant attachés au cep, en étant attachés à Jésus-Christ. Apprends-nous à rester attachés à toi dans notre quotidien, tout le temps, que ce soit notre manière de vivre et que tu nous aides à demeurer dans ta parole. Seigneur, pardon pour notre manque de lecture, de méditation, de mémorisation de ta parole. Aide-nous à construire notre vie, à bâtir notre vie sur toi. Père, nous prenons cette décision ce matin de demeurer en toi, de demeurer dans ta parole. Aide-nous. Nous voulons porter beaucoup plus de fruits pour ta gloire. Pas pour nous, mais pour ta gloire. Merci Seigneur, encore pour ta parole Et merci pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies.
Amen.